Bonsoir à tous. Alors, nous accueillons ce soir Philippe Forest pour son dernier roman, je prends bien soin de dire roman, Le Nouvel Amour, qui me semble-t-il, mais il va peut-être nous le préciser lui-même dans quelques instants, qui me semble-t-il prend place dans un ensemble de plusieurs livres. Il y avait eu en 1997 L'Enfant éternel, qui parlait de la maladie et de la mort de sa petite fille de 4 ans. Il y avait ensuite Toute la nuit, en 1999, où il revenait sur ses derniers jours. Il y avait eu Sarina Gara en 2004, où cette fois-ci l'expérience du deuil s'entrecroisait avec celle de plusieurs figures de la culture japonaise. Et puis il y a eu également Tous les enfants sauf un, assez récemment, au printemps 2007, qui fait retour sur cette expérience, mais j'emploie le mot à dessein, au sens que vous lui donnez vous-même, cette expérience du deuil sous la forme d'un essai. Aujourd'hui, voici donc Le Nouvel Amour. Et je me demandais, Philippe Forest, si l'on pouvait, si l'on devait situer ce livre, justement, par rapport au précédent, de manière étroite, rapprochée, si on pouvait considérer qu'il s'inscrivait véritablement dans un ensemble, dans une série, autour de la perte de votre enfant, et s'il existait toujours un lien fort et intime entre tous ces textes qui se nouent les uns aux autres autour d'une place vide, qui se serrent les uns contre les autres en quelque sorte. Est-ce qu'on peut encore situer ce nouvel amour là ?
Ah oui, je pense tout à fait, moi, mes livres comme constituant une série. Alors une série ouverte, en tout cas pour le moment, à l'intérieur de laquelle chaque nouveau livre naît de l'insatisfaction que m'ont procuré les précédents. Et du désir de les reprendre sous une forme nouvelle. Tous mes livres, et celui-là également, procèdent de cette expérience qui m'a poussé à l'écriture romanesque en 97 et donc qui est liée à la question du deuil parental. Et à chaque fois, j'ai voulu reprendre donc cette expérience, mais sous une forme qui est à chaque fois nouvelle. C'est pour ça que je crois qu'aucun de ces livres ne ressemble véritablement à aucun autre. Et j'ai l'impression d'être tout à fait dans un autre travail que dans un travail de ressassement. La différence du Nouvel Amour, c'est que j'ai toujours dit que pour moi, les notions de deuil et de désir étaient liées. Mais il est vrai que même si mes livres précédents étaient aussi des livres d'amour, donc des livres dans lesquels le désir avait sa part, c'était surtout la question du deuil qui était prédominante. Et donc là, j'ai voulu aborder les choses par l'autre versant cette fois. Donc c'est pour ça que c'est un livre d'amour.
Un livre d'amour. Et le titre, justement, Le Nouvel Amour, est emprunté à Rimbaud.
Oui.
Il me semble que c'est à une raison, dans les illuminations.
Oui.
C'est ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour.
Voilà.
Alors, justement, cette nouveauté là que vous empruntez aux illuminations rimbaldiennes, est-ce qu'elle ne vient pas peut-être introduire une rupture dans la série des livres de deuil ? Est-ce qu'elle ne vient pas engager une nouvelle orientation, une nouvelle destination peut-être, une promesse, quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ouvre là, dans ce livre ?
Pour moi, ça reste encore un livre de fidélité, mais je veux bien qu'il y ait rupture avec lui aussi, et notamment parce que l'expérience du désir, du nouvel amour, remet en mouvement quelque chose qui rend possible à nouveau pour les personnages un avenir. Le deuil parental a cette particularité, c'est vrai du deuil en général, mais je crois que c'est vrai plus particulièrement du deuil parental, que cette particularité donc d'interdire finalement aux individus, aux parents endeuillés, de se projeter véritablement dans un futur, parce que ce futur leur est barré justement par la disparition de la personne à laquelle, en principe, ils auraient dû transmettre quelque chose et qui, en principe, aurait dû leur succéder. Donc, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, notamment dans Toute la nuit, qui est un livre où j'avais essayé, notamment, même au niveau de la phrase et puis de la construction du livre, de parvenir à procurer au lecteur une impression de temps immobile, de temps suspendu. Et là, il est vrai qu'avec cette expérience du renouveau par le désir, quelque chose qui est de l'ordre de la promesse, oui, du futur redevient d'une certaine manière possible, mais toujours avec l'hypothèque malgré tout de cette expérience passée. Donc c'est ce qui fait peut-être la spécificité de ce roman d'amour, c'est qu'il raconte une histoire qui arrive à des gens qui sont déjà pris dans une histoire, et qui sont confrontés donc à quelque chose qui peut leur apparaître comme contradictoire par rapport à ce qu'ils ont vécu.
Contradictoire et en même temps qui peut-être redonne une autre inflexion à ce qui a été vécu. Vous parlez, c'était à la page 26, j'avais relevé une petite formule comme ça, du magnifique étonnement d'être encore vivant. Est-ce que c'est un livre là-dessus, sur le magnifique étonnement d'être encore vivant, quand on a traversé justement ce qui peut être comme une approche de sa propre mort à travers la mort de qui on aime?
Oui, tous mes livres sont des livres sur la survie, mais effectivement, la dimension érotique de celui-là permet d'appréhender la survie en se laissant aller à quelque chose, oui, qui est l'ordre de l'émerveillement, de l'euphorie, etc. C'est pas du tout... ça fait maintenant un mois et demi que le livre est paru, et donc je reçois un peu les réactions qu'il suscite, qui sont parfois des réactions qui m'étonnent ou qui me perturbent. Et parfois, les lecteurs ont tendance, me semble-t-il, à porter excessivement l'accent sur la dimension mélancolique du livre. C'est vrai que c'est un livre mélancolique. D'ailleurs, je crois que toute littérature est mélancolique. Mais pour moi, c'est essentiellement un roman d'amour. Donc ça parle essentiellement de l'euphorie du désir et de cette impression de recommencement qui naît de la rencontre amoureuse.
Alors, de quoi parle ce livre? Bon, je vais essayer d'assumer avec naturelle et bonhomie la platitude du résumé d'intrigue.
C'est vrai que résumer le livre comme ça, c'est le réduire à trois fois rien.
Oui, mais justement, on va le réduire à trois fois rien, si vous voulez bien, que j'essaie de me lancer dans l'expérience. Et puis, on va essayer justement, à partir de ce trois fois rien, peut-être de revenir à des choses beaucoup plus substantielles qui existent bel et bien là, dans ce texte. Alors, c'est un homme qui est donc le narrateur et qui est partagé et même écartelé, bien souvent, pendant une période qui s'étend sur à peu près 3 ans, entre sa femme, qui est prénommée donc Alice dans le roman, et sa maîtresse, qui est prénommée Lou. Et il est à la fois tout entier à la folie, à ce que vous évoquiez à l'instant, la folie heureuse de la passion revenue, la passion physique retrouvée comme une chance, la grande passion d'amour, et en même temps, il reste obstinément lié à sa femme par l'amour et le souvenir vivant de l'enfant morte. Alors, dit ainsi, ça n'est qu'une histoire d'adultère, une histoire d'infidélité, voilà, donc platitude avancée, assumée. C'est une histoire d'hésitation prolongée, non pas entre le sang et le sens, mais entre deux femmes.
Je corrige simplement votre présentation sur un point, c'est que pour ne pas donner l'impression que c'est un livre qui effectivement est dans la lignée des romans du 19e siècle sur l'adultère, c'est un livre dans lequel les femmes sont très libres et au moins aussi libres que les hommes. C'est-à-dire il y a trois femmes essentiellement dans le livre, mais il y en a essentiellement deux, et chacune d'elles est elle-même prise dans un réseau de relations amoureuses avec d'autres. Voilà, je dis ça pour pas qu'on m'accuse, parce que je sais que c'est la réaction de certains lecteurs et lectrices d'avoir produit un roman machiste qui sera un éloge de l'infidélité masculine. Non, les femmes sont au moins aussi infidèles que les hommes et au moins aussi fidèles qu'eux dans ce livre.
Alors justement, à propos de l'infidélité, j'ai lu dans un entretien que vous avez donné il y a peu que vous affirmez que ce n'est pas un livre sur l'infidélité, mais au contraire sur la fidélité. Ce qui signifierait peut-être que si vos lecteurs veulent comprendre ce qui est essentiel dans ce roman, eh bien il leur faut s'éloigner de toute appréciation ou définition conventionnelle de l'amour, de la fidélité, de l'infidélité, et peut-être appliquer un principe de renversement dans le contraire. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut aller vers ce texte?
Renversement dans le contraire, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Je ne sais pas non plus si je me rallierai à cette formule. Mais parce qu'il ne s'agit pas de renverser les conventions morales ordinaires pour bâtir une sorte d'anti-morale qui serait assez peu intéressante, parce qu'elle serait, elle ne serait rien d'autre que le reflet inversé de conventions, et donc la répétition sous une forme pseudo-transgressive d'un conformisme. Non, c'est un livre sur qui dit que on a droit à tout pour survivre au désastre d'être en vie. et que donc les normes morales habituelles cessent d'être pertinentes. La seule chose qui s'impose aux individus, c'est de ne pas faire souffrir, mais que malheureusement, comme je l'écris dans le livre, ce qu'on découvre toujours, c'est qu'aimer, souffrir et faire souffrir sont une seule et même chose. Donc c'est cette tenaille-là dans laquelle les individus que met en scène le livre, c'est dans cette tenaille-là qu'ils sont pris. Mais je crois que c'est la tenaille dans laquelle nous sommes tous pris. À moins de prendre la question amoureuse et érotique avec une extraordinaire légèreté, ou n'y accorder aucune attention. Malheureusement, mon narrateur n'accède jamais à cette légèreté-là. Il prend peut-être trop au sérieux les choses de l'amour.
Alors, c'est donc une histoire d'amour et d'érotisme. C'est vraiment une dimension très importante de ce texte. Vous lui donnez vraiment une place centrale à l'érotisme, au plaisir sensuel. Et vous le faites sans détour. Vous conduisez même, je crois, le récit sexuel jusqu'à certains moments, jusqu'à l'obscène, jusqu'à la description nue, pure, crue, véritablement de la jouissance du corps de l'autre, du désir aussi qu'il y a, et peut-être qu'on va en reparler, de s'abîmer dans le corps de l'autre, jusqu'à provoquer peut-être une intervention, une interchangeabilité des rôles sexuels qui sont si habituellement répartis entre le féminin et le masculin. Et c'est d'ailleurs ce que vous appelez assez joliment, mais on va revenir sur cette question, c'est très difficile d'en parler en termes de roman, et on sait qu'on est toujours à la limite de l'autobiographie, on va devoir peut-être clarifier ce point aussi, mais bon, je dis vous par commodité, si ça ne vous ennuie pas. En tout cas, le narrateur, voilà, soyons académiques.
Non, mais vous pouvez dire vous. Hein, c'est...
voilà. Donc, il y a cette... Vous parlez de sentimentalité, d'ailleurs, à ce propos, dans une manière très, très spécifique de s'enfoncer dans le vertige sexuel, et qui est une forme de sentimentalité. Est-ce que vous pouvez expliquer justement le choix de ce terme de sentimentalité appliqué là ?
Enfin, je peux essayer en tout cas, encore que ce soit des choses avec lesquelles je ne sois pas forcément très au clair moi-même, donc c'est aussi pour ça qu'elle demande à être dite ces choses sous la forme du roman plutôt que sous la forme de l'essai, parce que le propre du roman, c'est de décrire, de montrer, mais de se refuser à démontrer. Je reviens juste avant sur la question de l'obscène. Moi, j'ai pas l'impression... Enfin, je sais bien que c'est la manière dont le livre est parfois reçu, mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait un livre qui touche à l'obscénité. Même si, effectivement, il dit ce qui se passe entre les corps des gens qui s'aiment. Moi, je trouve ça un peu inutilement pudibond lorsqu'on est un écrivain d'éteindre la lumière, lorsque les choses intéressantes commencent vraiment. Donc, il y a une volonté de dire cette expérience qui est très banale, qui est l'expérience amoureuse. Mais ça me semble beaucoup moins obscène que la façon dont on parle ou on montre la sexualité aujourd'hui, ne serait-ce qu'à la télévision ou dans la culture la plus banale et la plus quotidienne. Alors sur la question de la sentimentalité, je crois que c'est quelque chose aussi avec quoi je ne suis pas forcément complètement au clair. Dans mes livres précédents, lorsque j'utilisais le terme de sentimentalité ou plutôt de sentimentalisme, c'était toujours de manière un peu péjorative pour montrer comment il existe un sentimentalisme dans la société actuelle, qui est en fait cette attitude par laquelle la société spécule sur les émotions et les souffrances d'autrui, tout en ne les vivant que sur un mode virtuel. Et donc en s'en défendant, en s'en protégeant. À l'inverse, le mot de sentimentalité, cette fois, il est connoté positivement dans ce livre, et il tient à ce qui me semble être la vérité de l'expérience érotique, c'est-à-dire justement à savoir qu'elle est une expérience de la perte, et que être sentimental, c'est assumer cette dimension de perte de l'expérience érotique. Et le faire en se tenant au plus loin d'un certain nombre de mythologies ou de représentations de la virilité qui me semble-t-il sont aujourd'hui assez hégémoniques et qui, pour moi, ne correspondent pas du tout à ce que c'est véritablement que l'expérience amoureuse. J'aime beaucoup citer cette phrase de Proust qui dit mieux que je ne saurais le faire ce que j'ai voulu montrer dans Le Nouvel Amour. C'est cette phrase de Proust qui, dans Un amour de Swann, parle de l'acte de possession physique dans lequel on ne possède jamais rien. Les hommes, ou du moins certains hommes, s'imaginent que l'acte sexuel leur permet de posséder le corps de l'autre. Mais lorsqu'on réalise que la possession phallique, bien sûr, elle existe, elle est même nécessaire dans une certaine mesure à l'expérience érotique, mais que les choses vraiment intéressantes commencent au-delà ou à côté ou autrement que dans la stricte dimension phallique de la sexualité telle que les hommes l'envisagent souvent. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a compris que dans l'acte de possession physique, on ne possédait jamais rien? C'est un peu ce que découvre le narrateur sentimental donc de ce livre.
Oui, expérience de la perte. Alors, peut-être qu'il faudrait clarifier, parce que pour des lecteurs qui ont des références du côté de Georges Bataille, oui, ça fait sens tout de suite. Et tout à l'heure, quand je parlais d'obscène, c'était évidemment vers Bataille que je regardais. Enfin, la perte, c'est-à-dire l'érotisme conçu comme ce qui nous conduit à la limite de notre propre néant, reconnaître en l'autre quelqu'un qui est au bord de son néant, qui a conscience de ce néant, le rejoindre justement là, en ce point crucial, où se joue véritablement l'authenticité de l'être et de la rencontre. Est-ce que c'est ça ?
Oui, la phrase de Bataille que moi j'aime beaucoup, c'est celle qui dit « Ce qu'il faut demander à l'être aimé, c'est d'être la proie de l'impossible. Mmh. » Voilà. Donc effectivement, c'est se confronter à un vertige au bord duquel le sentiment de l'identité personnelle et même de l'identité sexuée, pour revenir au point du roman auquel vous faisiez allusion, se dissout. Donc ça a à voir avec une certaine mise en cause de l'intégrité personnelle, avec le... Je sais pas, c'est difficile d'en parler autrement que par des métaphores. Donc ces métaphores sont la perte, le vertige, le déchirement, le basculement, l'inconnu, l'impossible, etc. Mais comme je le dis dans le livre, tous les gens qui ont aimé savent de quoi il s'agit, en fait. C'est pour ça que je pense que le livre pose problème, surtout du côté des gens qui ne veulent rien savoir de cette expérience, plutôt que des autres.
Alors, je ne sais pas si c'est lié très exactement à cette dimension érotique du récit, mais un critique, on peut citer son nom, il s'agit de Patrick Kechichian, qualifie, je pense que évidemment, ça n'est pas exclusivement du côté érotique que son appréciation se joue, qualifie ce livre de terriblement imprudent. Et éprouvez-vous cela, ce sentiment d'une imprudence, d'abord durant l'écriture de ces pages, et puis en relation avec leur publication? Si je vous pose cette question, c'est qu'à la fin du récit, vous faites le point, vous avez développé une réflexion sur le roman et surtout sur l'écriture de ce roman-là, et vous mettez en perspective ce qu'il peut y avoir de perdition dans le fait de vouloir écrire sa vie, de vouloir écrire son histoire, surtout lorsqu'on mobilise ce qui bouleverse profondément notre être.
Qu'un critique, bon, je fais attention parce que c'est enregistré, mais après qu'un critique trouve terriblement imprudent un livre comme Le Nouvel Amour, me dit surtout à moi à quel point la critique peut parfois être terriblement prudente, ou en tout cas manquer d'imprudence et se trouver parfois perturbé par des choses qui apparaissent finalement comme nécessaires et salutaires aux gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'est la littérature. Alors l'imprudence du livre, c'est une imprudence qui est liée à l'exposition de soi-même. Je cite très souvent dans ce livre Aragon, et je cite notamment cette strophe des poètes qui est très connue parce qu'elle a été mise en musique et chantée par Jean Ferrat, et qui dit « Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on en avouerait les fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède. » Il y a une sorte de démon, effectivement, qui s'empare de l'écrivain autobiographe, et qui c'est un peu comme le démon de la perversité chez Poe, c'est-à-dire qui oblige à faire ce que justement il ne faudrait pas faire, et que pourtant on finit par faire, et qui produit des effets dans le réel. Alors il est évident qu'un livre comme ça est un livre qui, je veux pas non plus héroïser la posture de l'écrivain, parce que tout ça, après tout, ne reste que de la littérature. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, notamment de celles dont j'ai parlé dans mes livres précédents, mais ça met quand même en danger l'écrivain, parce que l'écrivain a des collègues, l'écrivain a des amis, l'écrivain a une famille, il a une mère, par exemple. Donc l'aveu qu'on fait de sa vie amoureuse produit effectivement des conséquences qu'il faut après affronter dans la réalité.
Voilà. Alors là, dans cette réponse que vous venez de me faire, vous occupez la position de l'écrivain autobiographique.
Oui.
J'ai bien compris. et en même temps, sur la couverture figure le sous-titre roman, et je sais que dans vos écrits théoriques, par exemple dans le roman Le Réel, hein, qui a été publié très récemment aussi aux éditions Cécile Defaux, vous récusez l'étiquette autobiographique, vous évacuez l'étiquette tarte à la crème d'autofiction, il y a là quelque chose qui pour vous est, je crois, important dans la manière dont vous concevez le roman très profondément. Alors, le matériel qui est mobilisé ici, ce que Barthes appelait les biographèmes, enfin les traits de vie que l'on peut retrouver sont évidemment autobiographiques, et en même temps, c'est un roman. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être élucider ce qui peut apparaître comme un paradoxe pour certains de vos lecteurs?
Il est évident que ce que je fais se tient quelque part entre le roman et l'autobiographie, et je dois avouer que de manière très cynique, j'allais dire, ou en tout cas opportuniste, où je mets l'accent plutôt sur la dimension romanesque ou plutôt sur la dimension autobiographique, selon le lieu où l'accent me semble devoir porter, notamment en fonction des réactions ou de la réception du livre. Moi, ce qui me fait me démarquer de l'autobiographie ou de l'autofiction, c'est justement ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire l'autobiographie ou l'autofiction sont vues très souvent comme des exercices qui permettent à l'auteur d'affirmer son moi, de lui donner une cohérence, même légendaire. Alors qu'au contraire, moi, la vision que j'ai du moi, c'est pour ça d'ailleurs que je préfère parler de roman du jeu plutôt que d'autofiction, peut-être parce que j'ai lu trop de mauvais écrivains d'avant-garde, notamment les surréalistes, la vision que j'ai du jeu, disons, c'est plutôt une vision dans laquelle le jeu se perd, manque d'une identité stable. Et donc il s'agit pour moi, pour l'écrivain, d'exposer un jeu qui va être quelque chose de totalement opposé au jeu un peu légendaire que revendiquent en général les autobiographes depuis Rousseau. Ouais. Puis il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'explique aussi dans le roman Le Réel auquel vous faisiez allusion, et puis dans d'autres textes qui ont paru sur la littérature japonaise aussi, toujours aux éditions Cécile Defaux, dans cette série qui compte 3 volumes pour le moment. Si je parle de roman, c'est parce que pour moi, la vie elle-même est un roman. Donc, c'est pour cette raison-là que seul le roman peut dire la vie, parce qu'il est seul en mesure d'en rendre compte la dimension de fiction. Ce que je veux dire très simplement, c'est que écouter quelqu'un qui raconte sa vie dans un café ou un repas, etc., et sans en avoir forcément conscience, il est déjà en train de faire du roman. Et c'est pourquoi il faut prendre une conscience comme au second degré, en quelque sorte, de ce qu'on est en train de faire. Conscience au second degré par laquelle, faisant du roman de sa vie, on arrive peut-être à toucher à quelque chose qui ressemble un peu à la vérité ou au réel. Quoi.
Donc, en gros, enfin, pardonnez-moi, je pousse le bouchon, comme on dit. Mais en gros, toute histoire amoureuse serait déjà en elle-même un roman d'amour.
Ah oui, absolument. C'est ce que manifeste de manière tout à fait sublime et éclatante cette scène que j'évoque à la fin du livre, d'ailleurs, et qui vient de la Divine Comédie de Dante. Hein, c'est le chant 5 de l'Enfer. Dante descend avec Virgile, donc dans cette espèce de spirale en forme d'entonnoir qui contient toutes les âmes des damnés. Et il entre dans le cercle des luxurieux et il voit donc un homme et une femme qui sont accrochés l'un à l'autre malgré le vent brûlant qui les blesse et qui les emporte. Et ce sont les âmes de Paolo et Francesca qui racontent comment ils sont tombés amoureux. Ils sont tombés amoureux parce que, c'est aussi une histoire d'adultère d'ailleurs, qui se termine mal puisque les personnages au XIIIe siècle, au XIVe siècle, étaient plus jaloux que le sont désormais, les, heureusement, les hommes et les femmes du début du XXIe siècle, puisque le mari va finir par tuer les amants. Mais Paolo et Francesca sont en train de lire l'histoire des amours de Lancelot et de la reine Guenièvre. Et au moment où Lancelot et Guenièvre, dans le livre, s'embrassent, Paolo et Francesca, sans s'en apercevoir, s'embrassent à leur tour. Mmh. Le livre tombe de leurs mains et Dante a cette formule très célèbre. Et ce jour-là, c'est Francesca qui parle, nous ne l'hûmes pas plus avant. Mmh. Et cette scène a été peinte par Ingres. Et j'évoque à la fois le tableau d'Ingres et un poème d'Aragon qui est consacré à Paolo et Francesca. Voilà. C'est la Rochefoucauld qui le dit, on tombe amoureux parce qu'on a lu des romans d'amour. Et donc, être amoureux, c'est rentrer dans un long et exclusif roman d'amour qui s'écrit depuis Dante et bien avant, et à l'intérieur duquel tous les amants ont leur place.
Est-ce la raison de cette composition très particulière que vous avez adoptée pour ce roman? Roman, alors je ne sais plus très bien, roman, autobiographie, roman du jeu,
allons-y pour roman.
Alors, avec 11 chapitres qui sont tous précédés d'épigraphes, qui sont des paroles sur l'amour, mais qui sont autant de citations ou de fragments de citations non référencés, et délibérément non référencés. Donc on ne peut pas identifier, à moins d'avoir en tête toutes les références que vous brassez, mais on ne peut pas clairement identifier sur le moment l'appartenance de ces paroles comme une sorte de discours amoureux fragmenté et qui est là à l'orée de chaque chapitre, de chaque étape de l'histoire, offrir une sorte de parrainage littéraire, le parrainage d'autres histoires d'amour, d'autres paroles d'amour, à cette parole d'amour-là.
Oui, c'est exactement cette idée d'un long roman anonyme à l'intérieur duquel tous les amants existeraient depuis toujours et sans en avoir forcément conscience. Ça vient aussi du fait que j'ai un rêve qui serait, si je continuais à écrire des romans, de parvenir un jour, ce que je n'ai encore jamais réussi à faire, à écrire un roman dont le narrateur ne serait pas lui-même un écrivain. Parce que moi, je suis très fatigué de tous ces livres, il y en a beaucoup au cours de cette rentrée littéraire, qui n'ont d'autre raison d'être que de produire de leur auteur une image valorisante en tant que, entre guillemets, grand écrivain. Alors, j'ai essayé d'effacer tout ce qui pouvait permettre d'identifier les personnages, notamment en tant qu'écrivain ou en tant qu'intellectuel. On ne sait absolument pas ce qu'ils font dans la vie. Ça m'a amusé d'ailleurs parce qu'il y avait un article très, très, très élogieux dans l'Humanité Dimanche, dans lequel la journaliste me félicitait d'avoir écrit un roman qui était aussi une représentation des rapports sociaux dans la société, dans la France début du XXIe siècle. Ce qui prouve que les vieux réflexes d'interprétation judanoviens ne sont pas tout à fait morts, mais en tout cas, quand ils servent à apporter un jugement positif sur mon livre, je ne m'en plains pas. Mais enfin, en tout cas, il n'y a absolument aucune indication concrète concernant les personnages. Et notamment, j'ai presque réussi à faire un livre dans lequel on ne sait pas si le narrateur est écrivain. Et donc, du coup, toutes les références littéraires, je les ai en quelque sorte tirées du livre, tirées du récit lui-même, pour les placer dans ces chapitres qui sont un peu comme des épigraphes aussi, où ça me permettait de... Parce que le problème de l'écriture, quand on fait un roman d'amour, c'est la question du lyrisme. Alors, je pense que mon livre est lyrique, d'une certaine manière, mais tout le lyrisme peut-être excessif qu'il contient, je l'ai en quelque sorte circonscrit dans ces espèces de parenthèses poétiques qui ouvrent le livre, et où effectivement je nomme jamais les écrivains, justement c'est toujours ce désir de délester le livre de tout appareil critique ou de toute forme de référence ou d'allusion. Je ne cite pas les noms des écrivains, mais je cite ce qu'ils ont écrit et qui devient comme les fragments d'un seul et donc exclusif roman d'amour. Alors il y a surtout Aragon, mais il y a Breton, il y a Rimbaud, il y a Dante, il y a Lamartine et quelques autres encore.
Alors, vous êtes un auteur avec des exigences théoriques très aiguës et très cohérente. Et vous assumez, vous revendiquez même le fait d'écrire des romans d'amour. Mmh. Comment est-ce que c'est possible, Philippe Forest?
Ben, c'est la
comment
question.
Comment est-ce que ça s'articule? Enfin, comment. Voilà.
Oui. C'est la question de la sentimentalité. J'ai quand même un précédent, il y en a peu, mais j'ai quand même un précédent auquel je tiens beaucoup. Je suis toujours bataille, parce que c'est vrai que c'est pour moi le nom essentiel, mais il y a Barthes, et notamment il y a tout ce que Barthes a écrit dans Fragment d'un discours amoureux sur l'obscène de la sentimentalité, notamment lorsqu'il explique comment le sujet amoureux est aujourd'hui complètement seul, parce que justement, il n'y a plus de discours qui lui permettent d'exprimer sa singularité, et que du coup, c'est le sentimental et non plus le sexuel qui est devenu la forme moderne de l'obscène. Donc c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui... je ne sais pas si le fait d'avoir écrit des essais aggrave mon cas ou pas, mais je crois que pour toute personne qui écrit sur un roman d'amour, qui écrit un roman d'amour, pardon, elle transgresse finalement... cette espèce d'interdit qui pèse sur ce genre désormais, et cette transgression, elle s'accompagne du risque du ridicule, disons. C'est pas sérieux. Mais bon, ça m'a toujours amusé de... L'enfant éternel, c'était une sorte de mélodrame aussi, et c'était très mal vu, je veux dire. Avec ce que j'avais fait jusqu'à l'enfant éternel, le fait d'avoir écrit sur Solaire, sur Tel quel, d'être un spécialiste des avant-gardes du XXe siècle, j'aurais dû en principe écrire des livres très différents de ceux que j'ai écrits. Et bon, ce qui m'a poussé à écrire des livres différents, c'est bien sûr l'expérience que j'ai vécue, mais c'est peut-être aussi une certaine volonté de ne pas faire ce qu'on attendait de moi, en fait. C'est un peu puéril, hein, mais bon. Faut bien s'amuser un peu dans la vie.
Alors, c'est un livre qui donc raconte une histoire d'amour qui ne se déroule pas si bien que ça, en tout cas au bout de quelques temps, comme la plupart des histoires d'amour, du reste. Il y a un mouvement, il y a d'abord une phase ascensionnelle, vraiment l'entrée dans cette passion avec tout ce que ça implique de soulèvement au-dessus de soi-même, et puis ensuite les signes habituels de éloignement progressif des amours, infidélité, etc. Bon, tout cela s'installe de manière finalement attendue, je dirais, mais pas attendue au sens de banal, mais attendue au sens où peut-être n'y a-t-il pas grand-chose d'autre à attendre.
C'est la fatalité, voilà. Il n'y a pas d'amour heureux.
Ouais. Alors voilà, c'est une sorte, en effet, d'illustration du « il n'y a pas d'amour heureux ». Et en même temps, alors il y a une sorte de fascination qui se développe pour cette chute, cette déliaison amoureuse que vous analysez très très bien. Il y a beaucoup de force et de beauté, je trouve, dans les pages que vous consacrez à la période d'éloignement entre le narrateur et Lou, donc celle qu'il aime prodigieusement dès le début. Il y a presque une délectation, une fascination, une délectation pour cette chute amoureuse, pour le, non pas tomber amoureux, mais tomber depuis l'amour, en quelque sorte, la deuxième chute de toute histoire d'amour. Donc, on s'attend à ce que tout cela finisse très mal. Et d'ailleurs, la tentation d'une fin, d'une mauvaise fin est là. Vous l'énoncez très clairement. Mais en même temps, vous arrivez à en jouer aussi. Il y a une sorte d'esquive. Cette fascination ne l'emporte pas, me semble-t-il. Et je trouve qu'il y a, dans l'avant-dernier, le dernier chapitre, quelque chose qui parvient à conjoindre la réflexion sur ce que c'est que finir un roman et ce que c'est que finir ou pas une histoire d'amour. Mmh. Et finalement, vous choisissez de ne pas trancher.
Oui, c'est un livre dont la fin m'a posé beaucoup de soucis, parce que j'avais rédigé la totalité du livre à l'exception du dernier chapitre, et je ne savais pas comment terminer ce roman, tout simplement parce que dans la vie, les histoires ne se terminent pas comme dans les romans. Et donc La vie ne me donnait pas ma chute, si j'ose dire. D'ailleurs, elle ne me l'a pas vraiment donné davantage depuis. Et donc, j'ai voulu faire un livre qui ne se soumette pas à la fatalité qui pèse, sur toutes les histoires, et notamment sur toutes les histoires amoureuses. Parce que j'ai été très frappé en y réfléchissant par le fait que il y a un vrai fatum qui pèse sur ces histoires et qui conduit nécessairement, mécaniquement, les amants vers leur perte. Et cette perte, elle passe souvent par le sacrifice de l'héroïne en général, à la fin des romans d'amour, parce que souvent, ces romans d'amour sont écrits par des âmes. L'auteur ne sait pas comment... il est confronté au même problème que celui que j'ai eu, il ne sait pas comment finir son histoire, donc il décide de faire mourir l'héroïne. Et c'est comme ça que se termine Aurélien d'Aragon, c'est comme ça que se termine le diable au corps. Souvent, d'ailleurs, la femme meurt en couche, comme si la maternité était en quelque sorte la sanction du péché d'avoir aimé. C'est pareil dans ce roman magnifique, pourtant, qui est « Si je t'oublie, Jérusalem, les palmiers sauvages » de William Faulkner. C'est là que, à la fin, le narrateur dit cette phrase qui est reprise par Godard, « Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. » Et l'écrivain choisit le chagrin pour lui, mais il choisit le néant pour la femme, il la tue. Il y a vraiment quelque chose de criminel, souvent, dans les romans d'amour. Donc j'ai essayé de faire un roman d'amour qui ne se termine pas de cette manière-là. Et la situation dans laquelle je me trouvais était si confuse que j'ai en quelque sorte parié sur une fin heureuse pour le livre, et donc pour les personnages qui l'habitaient, en imaginant que peut-être ils allaient malgré tout se retrouver. Souvent on croit que les écrivains écrivent les choses qui leur sont arrivées, mais en fait c'est tout le contraire. Il arrive aussi qu'on écrive des choses pour qu'elles vous arrivent. C'est un peu la superstition à laquelle s'en remettent parfois les écrivains, qui pensent qu'agissant sur les signes, on peut agir aussi sur les choses.
Forcer le réel.
Voilà, c'est ça.
Signe magique.
Voilà, exactement. Ouais. C'est ça. Mais je crois vraiment que la littérature, ça a à voir avec la magie, en fait.
Alors, justement, à propos de... Il y a un joli passage vers la fin qui traduit cette hésitation, cette difficulté à refermer l'histoire et à congédier l'amour de façon définitive. On lit ceci: « L'amour ne contenait pas en lui-même la nécessité de sa fin. Ce qu'il prétendait n'avait pas su aimer, c'était tout. Non, la fatalité à l'œuvre s'exerçait ailleurs, où cependant elle manifestait toute sa force. » Elle commençait dès que l'on se mettait à raconter, et même seulement à soi-même dans le secret de son cœur. À partir du moment où l'on faisait une histoire de sa vie, que celle-ci lui donnait la forme d'un récit, auquel il fallait bien un début et une fin. Et comme tout amour était un roman, puisque tomber amoureux signifiait basculer la tête en avant dans le roman soudain révélé de sa vie, peut-être n'y avait-il pas moyen, au fond, de se soustraire à cette règle, voulant que tout fût enfin anéanti. Voilà. Et c'est cet anéantissement, alors je n'en dis pas plus parce que certains ici n'ont pas lu le livre, mais c'est cet anéantissement qui malgré tout est évité ou refusé, écarté en tout cas à la fin. Et la question que je me posais, il y a dans la dernière page, alors il y a comme une porte battante comme ça qui reste, et puis il y a dans la toute dernière page un appel répété. Qui réunit, enfin me semble-t-il, en tout cas, le passé, le présent et l'avenir. Quel sens lui donner à cet appel sur lequel ne se termine pas précisément le livre ?
C'est ça, c'est un signe que le narrateur s'adresse à lui-même pour imaginer que le récit qu'il est en train d'achever va pouvoir magiquement susciter la possibilité d'un recommencement dans la vie. J'ai tous mes livres ont ce point commun, que ce sont des livres qui refusent le point final, parce que mettre un point final, c'est toujours d'une certaine manière donner raison à la mort. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont construits en série, c'est parce qu'il faut que à chaque fois un nouveau livre vienne là pour reprendre le précédent, le relever en quelque sorte, le relancer. Et c'est cette énergie mentale qui se déploie de texte en texte.
Le mouvement du roman ou des romans qui font chaîne entre eux, voilà. Ce serait le mouvement de la vie, finalement, d'une certaine manière.
Enfin, oui, c'est du désir.
Du consentement à la vie, du désir du désir tourné vers la vie, en tout cas.
Ouais, ouais.
Quelque chose de très dynamique.
Oui, c'est ça, pour justement prolonger cette espérance de survie. Et puis aussi pour ne pas donner tort à l'amour, en fait. Enfin, c'est très sentimental.
Une question, alors là, qui, bon, c'est, j'avoue qu'à un moment, j'ai été conquise hein, par la lecture de ce livre, mais à un moment, tout de même, je me suis dit, oh ben non, là ça ne fonctionne pas pour moi. C'est toujours vers la fin, vous déclarez qu'il n'y a de roman que d'amour. Et vous ajoutez, l'amour est le roman, et lui seul. Car dans un roman, tout ce qui ne parle pas d'amour n'est que digression, temps perdu, répit pris par faiblesse, comme celui que se donnent les amants entre deux étreintes. Et bon, vous ne m'en voudrez pas, j'imagine, de croire que le tissu de nos vies n'est pas, et donc de nos romans, n'est pas fait d'une seule fibre qui s'appellerait l'amour, mais qu'il est fait aussi, entre autres choses, je ne sais pas, de la haine et des états limites qu'elle peut induire, des grands rêves idéologiques et de leur effondrement, de l'euphorie ou des défaillances du lien social, des convulsions politiques, des cataclysmes historiques. Bref, si je ne prenais qu'un seul exemple, j'espère que cet exemple ou cette référence nous rapprochera. Par exemple, Céline n'a pas écrit des romans d'amour.
Non, mais moi, le passage de Céline que je préfère, c'est celui dans lequel il raconte la façon dont... sans comprendre pourquoi, et ça me semble très proche de ce que j'explique dans Le Nouvel Amour, il abandonne la belle Molly aux États-Unis. Il y a cette phrase qui m'a toujours semblé déchirante, où il dit « c'est peut-être ça qu'on cherche après tout dans la vie, le plus grand malheur possible pour devenir soi-même avant de mourir ». Donc il y a autre chose chez Céline, mais finalement, ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est surtout ça. Mais ce que je dis, c'est très freudien, en fait, c'est tout simplement le fait que toute littérature, même ça n'est rien d'autre que de la sublimation, donc ça s'origine bien quand même dans quelque chose de sexuel, qui en fait est la curiosité. Enfin, moi je sais pas, moi je dis ça de manière. C'est vrai que j'ai tendance parfois, mais c'est peut-être un peu de la provocation, à poser des grands principes qui sont un peu excessifs. Bien sûr qu'on peut trouver d'autres choses dans les romans que de l'amour, mais il me semble malgré tout que la curiosité qui nous pousse à tourner les pages, elle est de cet ordre-là, c'est-à-dire essayer de voir comment les autres s'en tirent avec cette question insoluble qui est quand même malgré tout au cœur de nos vies. Alors après, bien sûr, ça résonne différemment, plus largement, dans le champ social, dans le champ politique, etc. Mais le nerf de la chose, mais bon, c'est peut-être moi, hein, je ne sais pas, mais il me semble que le nerf de la chose... Enfin, disons que moi, la raison essentielle pour laquelle je lis des romans, elle est de cet ordre-là, en tout cas.
Un dernier mot, Philippe Forest. À un moment... Dans Le Nouvel Amour, vous racontez le travail difficile de mise en mots, le récit de cette histoire d'amour quand vous avez commencé à écrire. Et puis vous dites qu'au fond, vous ne saviez pas à ce moment-là pour qui, pourquoi vous étiez en train de l'écrire. Mais la question que j'ai envie de poser quand même, c'est à qui s'adresse ce livre ? À qui s'adressent vos livres ? À qui parlez-vous ? Lorsque vous écrivez.
Ah, c'est une question très indiscrète.
Oui.
Non, je pense que là aussi, je parle pour moi, je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, j'ai tendance à penser que ça vaut pour tout le monde, mais peut-être que je me trompe. Je pense que tous les livres ont un destinataire qui est une personne concrète. Et je sais que dans une certaine mesure, ma fille est le destinataire de tous mes livres, parce que à travers eux... je me berce sans doute en partie dans l'illusion de ce qu'une parole puisse encore passer de moi à elle et donc en retour d'elle à moi. Un livre comme Toute la nuit était un livre dont le destinataire était ma femme, très clairement. Il est clair que dans ce livre-là, il y a plusieurs destinataires, mais notamment la destinataire principale, c'est le personnage de Lou. Et en ce sens, ce livre est aussi une déclaration d'amour, mais je crois que tous les écrivains ont toujours instrumentalisé la littérature à des fins personnelles, au sens où on écrit toujours pour être aimé, et la morale de l'histoire veut qu'on n'y parvienne pas en écrivant, ce qui démontre que la littérature ne peut pas être instrumentalisée à des fins personnelles. fût-ce dans l'intérêt de l'auteur, et donc ça lui restitue son caractère absolument désintéressé. Donc il y a un destinataire ou une destinataire qui est concrètement une personne, et puis au-delà, ça s'universalise quand même, ça s'adresse à d'autres lecteurs en supposant qu'une communication de l'auteur au lecteur au pluriel est possible. Moi je crois que c'est pour ça que la publication est nécessaire, c'est parce qu'en fait cette communication elle est la vraie fin du livre et donc elle est ce qu'il justifie. Je crois que, mais je ne sais pas, aussi singulier que soit le narrateur peut-être, ou aussi singulière que soit son histoire par certains de ses aspects, je pense que, enfin j'ai voulu en tout cas resserrer le propos au maximum pour faire un livre qui soit véritablement et rien d'autre qu'un roman d'amour, et en ce sens, il me semble, qui concerne tous les lecteurs. Et je crois qu'il le fait, parce que quand je vois les réactions qui sont... Bon, heureusement, il y a des réactions positives, d'enthousiasme, etc., mais il y a aussi des réactions, sinon d'hostilité, du moins de gêne. Je pense que... Je sais pas du tout quelque chose dont je me vante, hein, parce que je crois que ça tient pas du tout aux éventuelles qualités du livre. Je pense que ça tient simplement au projet du livre, quelle que soit la réalisation qui a suivi. Je pense que quand on touche à des questions telles que celle-là, il y a un phénomène d'identification et de projection qui s'opère de lui-même. Chacun se sent concerné. Donc aime ou déteste, ou aime ceci et déteste cela, etc.
Le roman tel que vous le concevez, qui est, si j'ai bien compris, hein, un affrontement... un affrontement sans phare et sans détour au réel, et à ce qui est le plus difficile à appréhender et justement à mettre en mots dans le réel. Donc le roman comme véritable affrontement du réel pour l'auteur doit reconduire le lecteur d'une certaine manière, hein, grâce à ce jeu des identifications réfractées, à justement un affrontement de son propre réel. Hein. C'est peut-être dans le sens que j'avais retenu une citation de vous citiez Aragon, c'est justement dans le roman Le Réel, l'essai que l'on a mentionné tout à l'heure. Vous citez une jolie phrase, je trouve, d'Aragon dans C'est là que tout a commencé, en 1964. Il écrivait: le roman, c'est la clé des chambres interdites de notre maison. Voilà. Oui.
Et puisque vous aimez Léris, il y a bien sûr aussi la célèbre formule qui vient de la préface à L'Âge d'Homme, où Léris parle de l'ombre, de la corne du taureau. Eh bien, je crois que si on se décide un jour à écrire un roman d'amour, c'est parce qu'on pense que le moment est venu de prendre le taureau, au moins par l'ombre de l'une de ses cornes. C'est un peu ce que j'ai voulu faire.
Bien, merci beaucoup, Philippe Forest.
Merci à vous.